Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 705 du podcast Touch dans l'actu. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et pour une nouvelle année, une très bonne année 2024 à toutes et tous. Déjà, merci d'être avec nous une nouvelle année sur Touch dans l'actu et une très bonne année à mon compère du jour, Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour Raoul, bonjour à tous et oui, bonne année. Profitez car toutes vos équipes sont invaincues en 2024 et ça c'est important de le rappeler.
Alors, sauf avec le décalage horaire, si tu considères que les Vikings ont joué en 2024.
Ouais, bah, mais... Tant pis pour vous, les Vikings. Non, on peut dire ça. Mais les autres,
le mardi, vous le savez, on débriefe trois affiches de la semaine. On va parler des Steelers qui retrouvent la forme au meilleur moment, des Eagles qui ont encore chuté durement. Et on va commencer par le match qui opposait les Lions aux Cowboys. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Et ça a donné 20-19 pour Dallas, Victor. Une 16e victoire à domicile de suite pour les Cowboys. Alors... Évidemment, l'action qui fait parler dans ce match-là, on va tout de suite l'éluder, je te propose, Victor, c'est la fin avec la tentative de conversion à des points des Lions qui est réussie, puis annulée, puis retentée deux fois. Est-ce qu'on peut juste, parce que je lisais sur les réseaux que c'était pas simple de comprendre ce qui s'était passé, est-ce qu'on peut juste donner un tout petit peu d'éléments, d'explication de ce que nous, on en a compris, Victor? Est-ce que toi, tu saurais nous refaire un tout petit débrief de pourquoi est-ce qu'il y a eu cette pénalité? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur cette action?
Alors, la question, c'est l'éligibilité des joueurs à recevoir la balle. Un lineman, par définition, est de base inéligible à recevoir le ballon, sauf s'il se déclare à l'arbitre. Et toute la question est là, c'est qu'en fait, Decker, donc Tyler Decker, left tackle, est venu se déclarer à l'arbitre, mais au lieu de venir tout seul, ils sont venus à plusieurs pour brouiller les pistes, entre guillemets, pour que les Cowboys ne sachent pas exactement ce qu'ils préparaient. Et apparemment, l'arbitre aurait mal compris et aurait considéré éligible 70 au lieu du 68. Alors, autant en français, ça peut se comprendre. Autant 68 et 70, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, je suis un peu surpris. D'autant plus que 70, tu le vois arriver après, en fait, alors que Decker s'est déjà déclaré. Donc, c'est vrai que c'est un peu confus. On ne sait pas tellement ce qui s'est passé. Il y a peut-être une erreur d'arbitrage qui coûte peut-être second seed aux Lions et offre la NFC Est aux Cowboys. Mais après tout, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu n'as pas un micro sur les arbitres, un micro sur les joueurs, c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais la conséquence qu'on voit tous, c'est qu'en effet, cette conversion à deux points a été annulé.
Annulé. Et derrière, les Lions la retentent deux fois, puisqu'il y a une fois où derrière, Jared Goff lance une interception, mais Micah Parsons, je crois, est hors-jeu sur l'action, donc elle est rejouée en se rapprochant à nouveau de la ligne. Et derrière, il tente une passe qui est incomplète vers Mitchell, et cette fois-ci, elle est ratée. Moi, j'ai surtout une question pour toi. T'étais devant le match à ce moment-là, en plus, Victor. Est-ce que vraiment il fallait tenter les trois fois à deux points où il n'y a pas un moment où tu dis « Bon, attends, on va en prolongation, puis on voit bien, non ?»
Ah non, 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 moi je pense qu'ils ont raison. Moi je pense qu'ils ont raison parce que tu es à l'extérieur face à une équipe qui est invaincue à domicile. En fait, ils sont un peu miraculeusement à égalité parce qu'en fait, c'est un match assez bizarre. Tout le match, tu as l'impression que Dallas est au-dessus, en fait. Vraiment, tout le match, tu as l'impression que Dallas est au-dessus. Et tu... À la fin du match, moi, j'étais en effet devant parce que je couvrais pour TDA et j'étais là, mais comment c'est possible que les Lions soient encore au même niveau que les Cowboys? Et du coup, à mon avis, sur la prolongation, vu, même s'il y avait eu ce touchdown miraculeux, je considère quand même que les Cowboys étaient favoris. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout de prendre à deux points. Après, c'est pas passé, c'est pas passé. Mais je pense que c'était la bonne décision.
Mais alors, est-ce que du coup, les Lions n'ont pas laissé passer leur chance un peu plus tôt dans le match? Goff perd deux ballons, il finit à 19 sur 34, 271 yards, un touchdown et donc deux interceptions. Il y a quand même 420 yards gagnés par les Lions. Comment ça se fait qu'ils ne marquent pas plus?
Bah, tu as dit des erreurs individuelles. Les interceptions, les imprécisions, l'impossibilité de convertir dans la zone rouge. Il y a eu tout un tas de domaines où Dallas a été meilleur. En tout cas, pendant une longue partie du match. Et finalement, j'ai envie de dire presque action après action, combat après combat, les Lions sont revenus dans le match. C'était un match extrêmement bizarre hein, parce qu'on a des erreurs individuelles aussi du côté des Cowboys. On a l'interception, on a le fumble. Donc finalement, à la mi-temps, on est à 7-3 d'un match qui pourrait être à 20-14. On a eu cette sorte de faux rythme tout le match, un peu étrange. Et c'est vrai que ça s'est fini finalement. Les deux équipes, on s'est bien rendu compte qu'elles ont un niveau équivalent et que si jamais elles se rencontrent à nouveau en play-off, bah on aura un match clairement serré. Mais c'est vrai que ça a été un match avec un faux rythme, beaucoup de changements on va dire de dynamique à l'intérieur même d'un match. C'était assez étrange à suivre. Mais encore une fois, je pense que les Lions ont eu raison de tenter et c'est pas passé. Jared Goff peut clairement être considéré, même si sur le dernier drive il est bon, hein, mais comme une des raisons de la défaite.
Ok, alors c'est... Moi j'allais te dire, est-ce que au bout d'un moment, c'est pas ces matchs de fin de saison où t'as un enjeu qui est très fort, là en plus, c'est très clair entre ces deux équipes-là qui jouent plus leur place pour les playoffs, mais carrément la tête de la NFC. Et au bout d'un moment, t'as peut-être un peu l'enjeu aussi l'enjeu qui dépasse le jeu, comme on aime bien donner des phrases toutes faites dans les résumés de sport. C'est un peu ce que je me suis dit, c'est que tu veux pas trop peut-être dévoiler ta stratégie avant les playoffs non plus. Potentiellement tu vas les retrouver, donc tu veux pas trop montrer ce que tu sais faire. Ça me surprend pas tant que ça finalement, ce résultat serré et un peu inconstant de la part des deux équipes. Alors je dis inconstant, il y a quand même des performances qu'il faut souligner. Tu l'as mentionné, il a fait un fumble, mais enfin il a quand même un match qui est exceptionnel. Je parle de CeeDee Lamb, le receveur des Cowboys. 13 réceptions, 227 yards, un touchdown. C'est le record de la franchise de Dallas sur un match. La franchise de Dallas qui ne date pas d'hier et qui a quand même vu passer des sacrés joueurs au poste de receveur. Il est où dans le classement des receveurs cette année pour toi, Victor CeeDee Lamb?
Oh bah il est tout en haut. Hein. Bon, je pense que Tyreek Hill est intouchable de par la saison qu'il a faite, même si les blessures ralentissent sa production là en fin de saison. Il est à la lutte pour la deuxième place avec les G. Brown et compagnie, mais pas plus bas, quoi. Pour moi, c'est deuxième égalité au maximum. C'est un joueur, moi, que j'ai toujours aimé, même à l'université. Il a gommé ses problèmes de drop, oui. Même si parfois, ça lui revient un tout petit peu dans certains matchs. Là, après, le fumble, c'est plus de la malchance. Moi, je trouve toujours que cette règle du touchback est absolument catastrophique, qu'il faudrait changer. Mais clairement, si Dallas gagne ce match, c'est uniquement grâce à CeeDee Lamb. Parce qu'il a littéralement marché sur la défense. Tu vois, il y a Dak Prescott, quand il était sans solution, Il en sait à CeeDee Lamb et puis démerde-toi, quoi. Et le mec s'est bien démerdé, hein, faut le dire. Il a profité des errances des defensive backs des Lions. Je dis, la première mi-temps finit à 7-3. Le touchdown de Dallas, c'est un touchdown de 92 yards. C'est une réception de CeeDee Lamb. Le reste était un petit peu plus brouillon. C'est vraiment, par ses éclairs de génie, il a remporté ce match. Surtout que le jeu au sol était quand même... Bon, la fin de match a un peu soigné les stats du jeu au sol, mais pendant trois quarts temps, le jeu au sol était un non-facteur total. Donc clairement, CeeDee Lamb a porté cette équipe sur ses épaules, en tout cas offensivement, parce que la défense, pour le coup, a été loin d'être mauvaise. Hein. Mais offensivement, il y avait CeeDee Lamb et le reste du...
C'est ça. Alors, pour info, il est à 1651 yards sur la saison. Ça aussi, c'est déjà un record pour la franchise des Cowboys sur une saison. Et il lui reste un match. Alors oui, c'est une saison à 17, là où avant c'était 16. Mais du coup, même avec ce match en moins, il est quand même devant. Donc, il fait une super année, tu l'as dit. Il est quand même bien servi par Dak Prescott sur ce match-là, qui fait 26 sur 38, 345 yards, 2 touchdowns et une interception. On en a déjà parlé, Victor, ensemble, dans des podcasts de preview les semaines précédentes. Dak Prescott, il arrive dans un niveau de forme que je trouve il a rarement atteint depuis son début de carrière en NFL. Et cette équipe des Cowboys, en plus à domicile, parce qu'elle est quasi assurée de jouer tous les playoffs à domicile, elle va être un sacré poil à gratter. N'importe qui les joue n'est pas content aujourd'hui en playoff, Victor.
Oui, après ils vont avoir cette fameuse pression médiatique que Dallas adore mettre sur ses joueurs, en mode ça fait 30 ans que vous n'êtes pas allé en finale de conférence, blablabla. Qui doit jamais être évident à gérer, mais c'est sûr qu'ils arrivent en bonne forme. Après, voilà, moi, la seule chose qui me chagrine un peu, c'est la non-efficacité du jeu de course qui fait que Dallas, parfois, est un tout petit peu unidimensionnel. C'est-à-dire qu'ils sont très bons quand il s'agit d'écraser les petits. Dans les matchs face aux gros, ils sont là. Ils sont même bien là. Mais attention à ce que ce côté unidimensionnel, si on a un jour moyen de Dak Prescott, ne leur coûte pas la victoire. Donc je dirais que paradoxalement, ça m'a presque plus rassuré pour les Lions que pour les Cowboys. Après, voilà, on en a parlé au début, mais cette erreur d'arbitrage, si les Lions et les Cowboys gagnent leur match de playoff, puisqu'ils seront normalement, sauf accident, en dernière semaine, tête de série numéro 2 et numéro 3, ils s'affrontent. Et s'ils s'affrontent et que du coup c'est à Dallas au lieu d'être à Détroit à cause de ce cafouillage arbitral, ça va faire parler toute la semaine.
C'est clair. J'allais finir là-dessus. De toute façon, pour Détroit, c'est pas trop grave pour l'instant, dans la mesure où ils vont finir, semble-t-il, troisième de cette NFC. Qu'est-ce qu'ils doivent améliorer peut-être en vue des playoffs qui arrivent selon toi? C'est quoi l'axe majeur à travailler?
Retrouver le mojo du début de saison, de ne pas faire d'erreur justement. Ils avaient ce côté à ne pas faire de turnover. Je crois que Jared Goff, il ne fait pas d'interception sur ses 8 premiers matchs ou un truc comme ça.
C'est pas CJ Stroud ça?
Non, Jared Goff aussi.
Ok.
J'en suis quasiment sûr. Mais pour le coup, ce que je veux dire, c'est que ils ont le talent. Ils ont la production, ils savent tout faire. Il faut juste vraiment qu'ils gomment un peu les erreurs. Ah, t'as raison, Jared Goff, autant pour moi, il en fait quelques-unes en début de saison. Mais c'était moins, on va dire...
coûteux.
C'était moins visible, je trouve, que maintenant. Il faut vraiment rendre le jeu plus propre. Ils ont des playmakers, ils ont de quoi faire. Ils arrivent à impliquer des nouveaux joueurs comme Jamison Williams, nouveau entre guillemets, parce que entre sa blessure et sa suspension, on a vu que dans la deuxième partie de la saison, ils commencent à s'étoffer. Ils ont vraiment un duo de running back extraordinaire entre Montgomery et Gibbs. Donc vraiment, gommer ses erreurs et jouer sur les forces. Et il devrait pouvoir faire des belles choses en plus.
On verra ce que ça donnera. On va enchaîner avec le match d'hier, de dimanche soir, entre les Eagles qui ont fini à 31 points et les Cardinals à 35. Victor, ça tombe bien que tu sois là et j'en suis un peu désolé pour toi, mais en même temps ça m'arrange parce que tu vas pouvoir me donner des éléments de contexte. C'est toi notre expert maison des Eagles. On voyait depuis quelques semaines que Philadelphie était en perte de vitesse, hein. Il y a eu une petite victoire la semaine passée face aux Giants et là c'est encore une défaite face à des Cardinals qui sont normalement à leur portée. Par quoi tu veux commencer? La défense de Matt Patricia peut-être?
Je pense que c'est une faillite collective d'un groupe. En fait, il faut savoir que les Cardinals n'ont pas punté de ce match. Ça, déjà, c'est incroyable. À la mi-temps, Philadelphie mène de 15 points parce que, notamment, il y a un pick-six de 99 yards de Sidney Brown et les Cardinals ont fait un peu n'importe quoi en zone rouge. Donc, globalement, tout va bien pour les Eagles à la mi-temps. Et là, il y a une explosion du groupe entre... Bon, l'attaque, tu ne peux pas vraiment leur en vouloir. Hein. Ils remettent encore 14 points en deuxième mi-temps. Ils finissent...
10 points, non
ouais. 10 points en deuxième mi-temps. Ils finissent à 31. Ce n'est pas catastrophique. Mais la défense, qui non seulement semble usée par des joueurs qui ont été surutilisés, qui semble trop faible à certains postes comme safety et linebacker, et qui semble extrêmement mal coaché, cette défense en deuxième mi-temps, elle a pris touchdown, 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 touchdown. Alors, c'est pas que la faute de la défaillance des Eagles, c'est aussi une incroyable performance des Cardinals, oui. Que ce soit Kyler Murray, que ce soit James Conner, que ce soit Greg Dortch, ou même le coaching de Jonathan Gannon et de son staff. Mais je veux dire, à un moment, soyons clairs, les Cardinals sont à 3-12, les Eagles ont besoin de 2 victoires pour remporter la NFC Est. NFC Est, qui, on le rappelle, n'a pas eu le même vainqueur 2 années de suite depuis 2004. C'est un record historique et apparemment, ça va continuer. Écoute, il y a un moment, si tu n'es pas capable de battre une équipe en 3-12 et que tu prends 449 yards par une des pires équipes de la Ligue, et je dis ça avec de l'affection pour les Cardinals, mais... Faut être à un moment honnête.
De manière comptable, c'est l'une des pires.
Voilà, je veux dire, c'est un groupe qui semble avoir lâché au pire moment, parce qu'on est en décembre. Dans 2 semaines, il y a les playoffs. Mais globalement, on voyait ce qu'on appelle le body language, donc vraiment la manière dont les joueurs se déplaçaient sur le terrain, étaient sur le côté du terrain, etc. Les mecs sont un peu perdus. Donc c'est une grande faillite... collective et ce remplacement, non-remplacement de Sean Desai par Matt Patricia est clairement la preuve d'une équipe qui a paniqué, qui a fait un changement et le changement fait que c'est encore pire.
Un tout petit mot du coup, tu en as beaucoup dit déjà, donc c'est bien, on va pouvoir accélérer, mais sur les Cardinals, est-ce que tu n'as pas des regrets en un sens quand tu vois ce qu'ils sont capables de produire de n'avoir eu tes titulaires qu'une demi-saison? Parce que les 4 victoires qu'ils ont, c'est quand même, je l'ai noté ici, Cowboys, Eagles, Steelers et Falcons. Alors, Steelers et Falcons, ce n'est pas les équipes les plus redoutées de la Ligue. Mais d'avoir accroché les Cowboys et les Eagles, c'est loin d'être évident. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, du coup, ces deux équipes-là sont en course pour la tête de la NFC Est et c'est un peu les Cardinals qui ont fait le juge de paix. Sur ce match-là, Kyler Murray est à 25 sur 31, 232 yards, 3 touchdowns, 1 interception. Il met 24 yards au sol. Et James Conner, t'en as parlé, finit à 128 yards au sol, 1 touchdown. Cette équipe d'Arizona, est-ce qu'il y a... la saison évidemment est finie, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un truc sur lequel tu peux dire bon, l'an prochain il faut qu'on appuie là-dessus?
Ah ben je trouve que cette fin de saison elle est plutôt encourageante parce qu'ils ont signé Kyler Murray avec une méga extension l'année dernière. Ça parlait beaucoup de est-ce qu'il faut le remplacer, etc. Vu sa fin de saison, je pense que, et vu, on en parlera dans les podcasts draft, mais une brochette de quarterback qui n'a pas forcément l'air d'être à un niveau extraordinaire. Bon, il est plus que probable que cette équipe ne sélectionne pas un quarterback. Et vu ce que montre Kyler Murray en fin de saison, tu peux construire là-dessus. Tu peux construire là-dessus sans aucun problème. Moi, je n'ai pas peur pour eux. Écoute, ils vont avoir quand même un top 5 choix de draft, hein, ou pas loin. Écoute, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Ils vont même avoir 2 choix de draft puisqu'ils ont... suite Houston avec le trade de Will Anderson, si je ne dis pas de bêtises. Donc écoute, tu as un groupe qui manque de talent à plein de positions, qui là a fait un grand match, mais il ne faut pas se voiler la face, ça ne fait pas d'eux une bonne équipe. Mais tu as des fondations sur lesquelles bosser et tu as des ressources pour renforcer l'équipe. Donc je dirais que cette fin de saison, elle est encourageante. Ils ont leur coach, ils ont leur quarterback. Et eh ben, il faut construire autour de ça.
Pour Philadelphie, on se dit quoi? Qu'on est déjà un peu à la tête aux playoffs et que du coup, c'est pas trop grave? Parce que, est-ce que cette équipe, elle fait encore peur aujourd'hui, entre guillemets, Victor?
Ben, c'est très grave parce qu'ils passent de tête de série numéro 2 à tête de série numéro 5. C'est-à-dire potentiellement deux matchs de play-off à domicile. Là, maintenant, tes play-offs, tu vas y passer 100% à l'extérieur. Sauf victoire des têtes de série 6 et 7, mais ça paraît un peu improbable. Mais donc c'est une énorme erreur sur un plan stratégique d'avoir perdu ce match. Et non, cette équipe des Eagles, ça ne fait pas peur. Je veux dire, elle a perdu 4 matchs sur 5. Elle a plus de défense. Elle semble ne plus avoir de ressources mentales pour gagner les matchs au raccro, comme elle l'a fait en début, milieu de saison, contre des Chiefs, des Bills, etc. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on se fout un peu de savoir comment les équipes ont performé en septembre-octobre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment elles performent en fin novembre, en décembre, pour arriver pour les playoffs. Bon, bah, clairement, c'est une des pires dynamiques de la Ligue. Et je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont se retrouver en play-off face probablement aux Buccaneers, parce qu'on va partir du principe que Tampa Bay va battre Carolina en dernière semaine, bah, je suis désolé, mais Tampa Bay, ils vont être favoris et ça sera mérité parce que ces Eagles, ils arrivent à rien.
Ah, t'es dur. Je sais pas si Tampa Bay sera favori face à Philadelphie quand même.
À domicile ?
Je pense que dans l'inconscient collectif, je sais pas quand même. Bon, moi je pronostiquerai pas Tampa Bay.
Non,
en tout cas,
mais
ça,
moi
c'est sûr
je te dis que chez Bookmaker, Tampa Bay sera favori. Et mine de rien, si on t'avait dit il y a 4 semaines, parce qu'on savait il y a 4 semaines que le vainqueur d'AFC Sud allait affronter les Eagles ou les Cowboys. Parce que c'est ouais. Comme ça, même si les équipes ont deuxième et troisième meilleur bilan de la division, de la conférence, il y en a un qui est tête de série numéro 5, parce qu'ils sont à la même division. Il y a 4 semaines, tu m'aurais dit Tampa Bay va se faire écraser, que ça soit Philadelphie ou Dallas. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que Tampa Bay va se faire écraser par Philadelphie ? J'en suis pas persuadé.
Je te trouve un petit peu dur, mais c'est ton avis, je le respecte. Dernière chose, la semaine prochaine, donc Philadelphie n'a plus son sort entre les mains, puisque ils sont derrière Dallas, on l'a dit. Maintenant, ils vont devoir jouer les Giants en semaine 18, et Dallas va chez les Commanders. Donc, théoriquement, les deux peuvent gagner. De toute façon, il faut que Dallas perde et que Philadelphie gagne pour que Philadelphie repasse devant. Le truc, c'est que, est-ce que, tu vois, tu disais, ils font plus peur, machin et tout, l'année où ils gagnent le titre, il y a quand même cette histoire de underdog mentality, personne nous attend, machin et tout. Je dis pas qu'on en est là, mais simplement, c'est une équipe qui a prouvé...
Non, mais l'année où ils gagnent le titre, pardon, mais Carson Wentz se blesse, c'est pour ça qu'il y a ce côté, ils vont perdre, mais ils sont tête de série numéro 1, et ils font tous les playoffs à domicile. Et encore une fois, je pense que c'est une grosse différence.
Bon, eh ben écoute, on verra ce que ça donnera pour ces équipes-là. Nous, on finit avec le dernier match des affiches de cette semaine 17. Et c'était le match entre les Seahawks qui ont fini à 23 points et les Steelers à 30. Et on a encore quand même une grosse performance offensive des Steelers sur ce match qui ont empilé 468 yards. C'est leur record de la saison face à la défense de Seattle. Franchement, c'était un bon match. Pour le coup, c'est moi qui le couvrais dimanche soir sur TDA. C'était serré de bout en bout. Pittsburgh a joué un peu à l'ancienne. Beaucoup de jeux au sol et une défense qui a fait craquer les Seahawks au bon moment, notamment avec un fumble forcé sur Geno Smith en fin de match. La star du match, évidemment, c'est Najee Harris. 27 courses, 122 yards, 2 touchdowns, mais il est bien aidé par Jalen Warren qui finit à 75 yards et un touchdown aussi au sol. Et finalement, Victor, les Steelers qui sont toujours dans la course, alors qu'ils doivent jouer les Ravens la semaine prochaine, hein, mais Baltimore qui n'a plus rien à jouer. Est-ce que cette équipe de Pittsburgh, elle n'est pas en train de se tailler une petite fin de saison un peu en forme de miracle. Et alors là, s'ils vont en play-off derrière, ça peut être assez rigolo, quoi.
Oui, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors d'ailleurs, tu parlais des Ravens, petit disclaimer, hein, parce que beaucoup de gens vont être surpris de ne pas voir les Ravens dans les affiches. C'est tout simplement parce que c'est Lucas qui l'a commenté en direct sur M6 et qui est dans le podcast de demain. Donc le podcast de demain ouvrira sur les Ravens. Ne vous inquiétez pas, fans de Baltimore, on va beaucoup parler de vous.
Excellent teaser, Mathieu. Tu as bien raison de faire la promo comme ça, d'un podcast à l'autre, bravo.
Et évidemment, c'est un métier, hein, avant tout. Mais donc, pour revenir sur les Steelers, écoute, il y a 3 ou 4 semaines, Raphaël, dans un podcast, avait été un peu provocateur en disant « On n'a pas envie de voir cette équipe en play-off. Parce qu'ils sont chiants à regarder et il n'y a rien qui se passe. » Et j'étais pas loin d'être d'accord. Le fait est que sur les 2 dernières semaines... On a une équipe qui est totalement métamorphosée. Tomlin va réussir ça, je ne sais plus, 16e saison consécutive. 17e, voilà, c'est assez incroyable. Cette équipe, quand il faut jouer dans le sprint final, elle est toujours irrésistible. Et dans ce match, en plus, il y a tout eu. Il y a eu une défense qui a contenu Seattle. Il y a un jeu aérien qui continue à s'appuyer sur la relation entre Mason Rudolph et George Pickens. Et il y a même eu un jeu au sol qui a été efficace. Donc vraiment, ils ont tout eu. Et pour peut-être la première fois de la saison, ils sont apparus comme une équipe complète qui a fait un match complet de la première à la dernière minute. Et je trouve ça ultra encourageant.
Moi, ce que je trouve fort, c'est que très longtemps dans cette saison, on a dit du mal de cette attaque et a raison, elle était pas belle. Et Raphaël, ce qu'il avait dit, je m'en souviens très bien, c'était qu'en fait, on veut pas voir cette équipe parce qu'on s'embête pour rester poli en attaque. Et ça, non mais ça, et ça, ça a complètement changé. Alors, il y avait eu Matt Canada qui est parti, machin, ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais soit. Moi, je crois quand même, mais on n'est pas à convaincre, toi comme moi, et on l'a souvent censé ici, Mike Tomlin, de réussir ce qu'on disait, une 17e saison sans bilan négatif. En plus, cette saison, je rappelle le casting au poste de quarterback, c'est Kenny Pickett, c'est Mason Rudolph et c'est Mitch Trubisky. Pardon, mais c'est très loin d'être la panacée. Ça, c'est pour vous en 2024. Bonne année à toutes et tous. Et il arrive quand même à tirer cette équipe au moins à un bilan de 9-8, voire peut-être à un bilan de 17. C'est pas encore fait. Donc, je trouve exceptionnelle la remontée des Steelers. Et c'est pour ça que je te disais, et je suis d'accord avec toi, que cette équipe-là, si elle arrive à se qualifier en play-off, on va en parler juste à la fin des scénarios, mais si elle y arrive, j'ai pas envie de jouer contre eux. J'ai vraiment pas envie de jouer contre eux parce que pour une fois, on voit l'attaque meilleure que la défense et franchement, du côté de Pittsburgh, c'était loin d'être gagné. On peut peut-être dire juste un mot de Seattle quand même parce qu'ils n'ont pas à rougir de leur performance. Geno Smith, il fait 23 sur 33, 290 yards, un touchdown et 33 yards au sol. DK Metcalf a encore sorti 106 yards exactement. Cette équipe de Seattle, on va le dire aussi, elle a encore une possibilité d'aller en playoff qui est infime, certes. Mais pareil, j'ai pas envie, surtout une équipe coachée par Pete Carroll, qui est pas loin d'être un des meilleurs coachs actuels derrière Tomlin aujourd'hui, j'ai pas envie non plus de la jouer en playoff, Victor.
Oui, bah les Rams et les Seahawks sont un peu les épouvantails de la NFC. Bon, on en parlera malheureusement pour les Seahawks, ça semble peut-être un petit peu mort, parce qu'ils ont pas de tiebreaker contre les Packers. Mais c'est vrai que c'est une grosse déception parce qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Il y a une explosivité offensive qui est non négligeable. Je trouve que malgré tout, ce match est un peu symptomatique d'une défense des Seahawks qui n'a pas forcément apporté ce qu'on attendait cette saison. On attendait un gros développement du backfield défensif. Bah, finalement, ça a été un peu compliqué à l'image de Tariq Woolen. On attendait une ligne défensive en progrès. Bah, finalement, elle se montre un match sur deux. C'est pas l'attaque qui perd ce match, même s'ils auraient pu être plus efficaces. Mais bon, on ne découvre pas que la défense des Steelers, c'est quand même une très, très bonne défense. Tu marques 23 points, on va dire que tu fais le boulot. Mais quand tu vois la défense se prendre 400 yards et 30 points, c'est quand même là que le bas blesse. Et j'ai l'impression que ça sera quand même encore et toujours le grand chantier d'Inter.
Et tu vois, ils passent pas très loin parce que sur ce match-là, en fin de match, après que les Steelers marquent les 3 points qui les font passer à 10 points d'avance, Geno Smith récupère la balle après son fumble et en une minute en gros, il retraverse le terrain, il arrive devant la end zone et là, il se contente d'un field goal. Et c'est peut-être ça qui a manqué aussi à Seattle, c'est un peu de finition. Tu l'as dit, on peut finir là-dessus. Le scénario, il n'est pas simple pour eux. Ils doivent aller jouer à Arizona la semaine 18. Donc déjà, là, on a vu qu'Arizona, c'était quand même pas simple. Quand bien même ils gagnent, il y a beaucoup d'autres prétendants. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 6 équipes pour 2 places.
Non, alors sur la... On va dire que globalement, oui. Alors théoriquement, il y a 6 équipes. Mais en vrai, le plus probable, c'est que ça se joue.
Il y a la NFC Sud, ouais.
C'est que ça se joue. Alors, il y aura le vainqueur de la NFC Sud, on verra qui c'est. Et après, les Rams sont qualifiés. Et le septième, en fait, si Green Bay bat Chicago, Green Bay est en playoff. Après, c'est jamais... Oui. La NFC Nord, surtout cette saison, c'est jamais gagné d'avance. Mais du coup, Seattle, en fait, doit battre Arizona. Et en plus, espérer que les Packers...
Tout est possible avec la NFC Nord, tu l'as dit, mais bon, c'est pas le scénario le plus attendu. En revanche, pour les Steelers, où est-ce qu'ils jouent? Oui, si, on l'a dit, voilà. Ils jouent chez les Ravens, qui n'ont plus rien à jouer. Pareil, ça veut pas dire qu'une victoire les qualifie, mais est-ce que c'est un peu plus probable, peut-être? Les Ravens, ils vont pas aligner les titulaires, Victor?
Alors, Alors, ça, c'est un vrai débat qu'il faudra ouvrir dans la preview. Mais pour les Ravens et les Niners...
Et ce sera notre podcast de jeudi,
exactement,
merci.
Exactement, parce que pour les Ravens et les Niners, si tu ne mets pas tes titulaires et qu'en plus, il y a la semaine de repos, ça veut dire que tu arrives en play-off avec des joueurs qui n'ont pas joué depuis 3 semaines. Est-ce que vraiment, tu as envie de prendre ce risque? C'est un vrai débat, c'est une vraie stratégie. Je ne pense pas qu'il y ait de bons... De bonnes solutions, mais quoi qu'il arrive, les Steelers auront besoin aussi d'aide un peu supplémentaire, parce qu'ils auront aussi besoin que les Bills perdent contre les Dolphins, puisque l'AFC est folle, puisque les Bills, par exemple, hein, je prends les Bills en illustration, peuvent finir tête de série numéro 2 ou peuvent être éliminés des playoffs. Et ça, c'est assez incroyable.
Ça, c'est quand même pas mal.
C'est vraiment la dernière semaine en AFC, ça va être un bazar total. Et écoutez bien la preview parce qu'il y aura tous les scénarios, etc. Ça va être un bazar absolu.
Et écoutez bien la preview parce que vous aurez deux excellents chroniqueurs derrière le micro, en l'occurrence Victor et moi-même, excellentissime. Mais d'abord, puisqu'on va terminer ici ce podcast de débrief des affiches, demain vous aurez le débrief de toutes les autres affiches de la semaine 17. Il y a eu d'autres matchs, et on en a parlé évidemment, le match entre les Dolphins et les Ravens, mais il y a eu d'autres affiches complètement catastrophiques, il faudra quand même en dire un mot. Et ça, on laisse la main à Alain Mattei et Lucas Vola. Mais nous, Victor, on se retrouvera jeudi pour faire la preview de cette dernière semaine 18 qui a encore plein d'implications possible dans plein de matchs différents, donc accrochez-vous, ce sera une fin de saison assez dynamique et puis bah voilà, en tout cas merci d'avoir été avec nous là pour ce petit épisode de débrief des affiches, merci beaucoup Victor de cette première de l'année tous les deux.
Merci Raoul, merci à toi.
Et puis on vous l'a dit, vous retrouverez sur Touchdown Actu tous les résumés, le résumé du match que nous on n'a pas encore vu mais dont vous aurez le résultat en écoutant ce podcast de ce soir, hier soir, et puis le podcast de demain, les previews et tout
ça. Mais il n'y a pas de match ce soir, hein.
Ah bon?
Tu insistes, mais il n'y a pas de match.
Il n'y a pas de Monday Night Football au moment?
Tous les matchs ont été joués.
Mais on m'a menti.
Non, il n'y a pas de Monday Night parce qu'en fait, Monday Night, pour tout te dire, a été décalé au samedi. Pour pouvoir laisser ce soir la primauté aux demi-finales universitaires.
Ah, mais exceptionnel! Eh ben voilà, donc en plus, vous apprenez les choses en même temps que moi dans ce podcast.
Oui, parce que ce soir, vous aurez. Vous aurez Washington, Texas, et vous aurez Michigan, Alabama.
Allez, et ben, ouais. Bon courage à tous ceux qui aiment le football universitaire. Et puis pour la NFL, vous avez l'adresse, vous avez le nom, c'est touchdownactu.com. Pour tout le reste, et ben, à très bientôt sur les plateformes de podcast pour retrouver les épisodes prochains et sur le site pour toute l'actu de la NFL. Très bonne fin de journée. Encore une fois, très bonne année 2024 et à très bientôt. Ciao!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.